Au début du mois de juillet, par une chaleur torride le soir venu, un jeune homme quitta le cagibi qu'il soulouait ruelle S, sortit sur le trottoir et lentement, comme pris d'indécision, se dirigea vers le pont K. Bonjour à tous, vous écoutez D'ouvrage en ouvrage, un podcast proposé par la Maison de l'architecture de Franche-Comté. Je suis Céline Morlot, votre lectrice du jour. Aujourd'hui, pour notre quatrième épisode, Crime et châtiment de Fiodor Dostoïevski, paru en 1866, ou Errance à Saint-Pétersbourg. Jeune étudiant réduit à la pauvreté, Raskolnikov ne parvient plus à assurer les besoins de sa mère et de sa sœur aux revenus misérables. Il se résout à mettre en gage l'une de ses dernières possessions, une montre que lui a léguée son père, chez une usurière. Mais ses idées et aspirations, la distinction qu'il établit entre le meurtre que commet l'homme ordinaire, répréhensible, et l'homme d'exception, nécessaire à son ascension, le rattrapent. D'autant plus que sa situation ne semble guère bénéficier de ce dernier sacrifice. Pris d'un désespoir maniaque, il assassine l'usurière et la sœur de celle-ci pour les voler. Par un hasard ou une chance qu'il ne parvient à expliquer, Raskolnikov n'a laissé aucune trace de sa présence à la scène du crime, en dépit de l'état second, dissociatif, proche de la folie dans lequel il se trouvait à ce moment. Un autre homme est accusé à sa place. Le reste du roman Crime et châtiment se compose des états d'âme de Raskolnikov, entre remords d'avoir commis un double meurtre et retour de la pensée que cet acte était nécessaire non seulement à sa survie et à celle de sa famille, mais plus encore à son élévation sociale et morale. C'est lors de ses errances dans la ville, la Saint-Pétersbourg du milieu du XIXe siècle, que ses ruminations et analyses psychologiques, aussi bien réflexives que sur la société de son temps, interviennent avec le plus d'intensité. Raskolnikov prend les paysages urbains pour miroir, reflet des mœurs et coutumes de ses habitants, pour réceptacle de ses réflexions sur le sort des hommes et leurs tourments. Les extraits choisis pour cette lecture se situent dans les deux premières parties du roman, afin de vous laisser le plaisir, si vous le désirez, de découvrir ou redécouvrir toute la finesse et complexité de l'intrigue et des personnages de Crime et châtiment. Dehors, il faisait une chaleur étouffante, terrifiante, avec en plus le manque d'air, la cohue, partout la chaux, les échafaudages, les briques, la poussière. Et cette puanteur particulière de l'été que connaissent si bien tous les pétersbourgeois qui n'ont pas la possibilité de louer une datcha. Tout cela en même temps frappa désagréablement les nerfs déjà affaiblis du jeune homme. Quant à la puanteur insupportable des tavernes, dont cette partie de la ville contient une multitude, et aux ivrognes qu'il rencontrait partout, même si c'était une heure de travail, ils mirent une dernière touche au coloris détestable et triste du tableau. Une sensation de dégoût insondable fusa une seconde dans les traits délicats du jeune homme. Mais bientôt il tomba comme dans une rêverie profonde et même, pour parler plus justement, dans une sorte d'oubli et se mit à marcher, sans rien remarquer de ce qui l'entourait et comme s'il ne voulait rien remarquer. De loin en loin, il se contentait de marmonner quelque chose en lui-même suite à cette habitude de monologuer qu'il venait de s'avouer. À cette même minute, il avait bien conscience que ses pensées s'embrouillaient parfois et qu'il était très faible. C'était le deuxième jour qu'il n'avait vraiment presque rien mangé du tout. Il était si mal habillé que d'aucuns, même avec une certaine habitude, auraient eu honte de sortir dans la rue, en plein jour, avec des haillons pareils. Du reste, le quartier était tel qu'il y était difficile d'étonner qui que ce soit par son costume. La proximité de la place au foin, la multitude des établissements que l'on sait, et la population essentiellement artisanale, ouvrière, massés dans ces rues et ces ruelles du centre de Pétersbourg, coloraient parfois le panorama général de sujets tels qu'il aurait même été étrange de s'étonner en croisant certaines silhouettes. Mais tant de mépris rageur s'était déjà accumulé dans l'âme du jeune homme que, malgré toute sa susceptibilité, parfois encore très juvénile, ses haillons étaient ce qui lui faisait le moins honte. Thank you. Il abandonna son banc et se mit à marcher, presque à courir. Il voulut retourner chez lui, mais soudain, rentrer chez lui le dégoûta d'une façon terrible. C'était là, dans son coin, dans cette armoire terrible, que tout ça mûrissait depuis déjà plus d'un mois, et il marcha donc au hasard. Son tremblement nerveux était devenu quelque chose de fébrile. Il sentait même de la fièvre. Avec une chaleur pareille, il avait froid. C'est comme en se forçant qu'il commença, d'une façon presque inconsciente, par une espèce de nécessité interne, à observer tous les objets qu'il rencontrait, comme s'il cherchait une distraction forcée, mais il y arrivait très mal et retombait à tout instant dans sa songerie. Quand, de nouveau, en tressaillant, il relevait la tête et regardait autour de lui, il oubliait tout de suite à quoi il était en train de réfléchir et même le lieu où il passait. C'est ainsi qu'il traversa toute l'île Vassilievski, sortit sur la petite Neva, traversa le pont et tourna vers les îles. Au début, la verdure et la fraîcheur sourirent à ses yeux fatigués, habitués à la poussière de la ville, à la chaux, aux immeubles immenses, oppressants, écrasants. Là, il n'y avait plus ni touffeur, ni puanteur, ni débit de boisson. Mais bientôt, ces sensations nouvelles et agréables devinrent elles aussi douloureuses, sources de nervosité. Parfois, il s'arrêtait devant telle ou telle datcha tout ornée de verdure. Il regardait la palissade, voyait au loin, sur les balcons, dans les terrasses, des femmes endimanchées et des enfants courant dans le jardin. C'était surtout les fleurs qu'il occupait, c'était surtout elles qu'il regardait longuement. Il les accompagnait de ses regards curieux et il les oubliait avant qu'elles ne disparaissent à ses yeux. Une fois, il s'arrêta et recompta son argent, cela faisait près de 30 copecs. Vint aux gendarmes, 3 Anastasia pour la lettre, donc hier, au Marmeladov, j'en ai donné 47 ou 50, se dit-il en calculant. Lui-même ne savait trop pourquoi, mais il oublia vite la raison pour laquelle il avait sorti son argent de sa poche. Il s'en souvint quand il passa devant un magasin d'alimentation, un genre de taverne, et il sentit qu'il avait faim. Entré dans cette taverne, il but un petit verre de vodka, il mangea une tourte fourrée à il ne savait pas trop quoi. Quand il finit de la manger, il avait repris sa route. Il n'avait pas bu de vodka depuis très longtemps, et elle agit en un clin d'œil, même s'il n'en avait bu qu'un petit verre. Ses jambes s'alourdirent soudain, et il commença de sentir qu'il avait vraiment sommeil. Il retourna chez lui. Mais à peine arrivé à l'île Petrovski, il s'arrêta, complètement épuisé, quitta la route, entra dans les buissons, tomba dans l'herbe, et à la minute même, il s'endormit. Et si la perquisition avait déjà eu lieu, si justement je l'ai trouvé chez moi? Mais voilà sa chambre. Rien, personne, personne n'était venu voir. Même Nastasia n'avait touché à rien. Mais mon Dieu, comment avait-il pu tout à l'heure laisser tous les objets dans ce trou? Il se précipita dans le coin, fourra ses mains sous le papier peint et se mit à ressortir les objets pour les charger dans ses poches. En tout, il s'avéra qu'il avait 8 objets. 2 petites boîtes avec des boucles d'oreilles ou quelque chose dans ce genre-là, il ne regarda pas vraiment, puis 4 étuis en maroquin de taille moyenne. Une chaînette était juste enveloppée dans du papier journal. Quelque chose d'autre encore aussi dans du papier journal, une médaille ou quoi. Il mit le tout dans ses différentes poches, celle de son manteau et la poche droite de son pantalon, celle qui restait, en faisant tout pour qu'on remarque le moins possible. Le porte-monnaie aussi, il le prit en même temps que les objets. Ensuite, il sortit de sa chambre, la laissant cette fois même grande ouverte. Il marchait d'un pas ferme et rapide, et même s'il sentait qu'il était complètement perclus, sa conscience restait en éveil. Il avait peur d'une poursuite, il avait peur que, dans une demi-heure, un quart d'heure peut-être, un ordre ne soit déjà donné de le prendre en filature. Et donc, coûte que coûte, il fallait qu'avant ce moment-là, toutes les pistes soient effacées. Il fallait encore régler tout cela tant qu'il lui restait ne serait-ce qu'encore un peu de force, ne serait-ce qu'un tout petit peu de raison, ou donc aller. La chose était déjà décidée depuis longtemps. Tout jeter dans le canal, toutes les pistes dans l'eau, et avec l'eau, plus de pistes. C'est ce qu'il avait encore décidé la nuit, dans son délire, à ces moments où, il s'en souvenait, il avait essayé plusieurs fois de se lever et de sortir. Vite, vite, et tout jeter, mais tout jeter s'avéra très difficile. Il errait le long du canal Ekaterinensky depuis déjà une demi-heure, et peut-être même plus, et il avait regardé plusieurs fois les descentes jusqu'au canal à chaque fois qu'il en voyait. Mais, réaliser son intention, il valait même mieux ne pas y penser. Soit il y avait des radeaux juste au bas des marches, avec dessus des lingères qui lavaient leur linge, soit c'était des barques à marée. Et partout, des gens grouillaient littéralement. Et puis, on pouvait voir, on pouvait remarquer, partout, depuis les quais, de tous les côtés. C'était suspect qu'un homme descende exprès, qu'il s'arrête et qu'il jette quelque chose à l'eau. C'était suspect qu'un homme descende exprès, qu'il s'arrête et qu'il jette quelque chose à l'eau. Et si les étuis ne sombraient pas, s'ils se mettaient à flotter, mais bien sûr, tout le monde le verrait. Déjà que tout le monde le regardait comme ça, en le croisant, on le toisait, comme si on ne s'occupait que de lui seul. Mais pourquoi, ou alors peut-être, c'est juste une impression, se disait-il. Il lui vint enfin en tête qu'il serait peut-être mieux de descendre quelque part jusqu'à la Neva. Là, d'une part, il y avait moins de monde, on remarquait moins, et de toute façon, c'était bien plus pratique, et surtout, c'était plus loin de ce quartier-ci. Et d'un seul coup, il s'étonna. Comment avait-il pu errer pendant toute cette demi-heure, plein d'angoisse et d'inquiétude, dans ces endroits si dangereux, et que cela, il n'avait même pas été capable de le trouver? Et la seule raison pour laquelle il avait pu tuer cette demi-heure à une affaire aussi stupide, c'était qu'il avait pris cette décision dans son sommeil en plein délire. Il devenait vraiment distrait, il oubliait tout et il le savait. Décidément, il fallait se dépêcher. Il descendit vers la Neva par la perspective. Mais en chemin, il lui vint soudain une autre idée. Pourquoi la Neva? Pourquoi dans l'eau? Il ne vaudrait pas mieux aller quelque part, loin, ne serait-ce que jusqu'aux îles, et là, quelque part, dans un lieu isolé, la forêt, sous un buisson, l'enfuir, tout ça, et peut-être laisser une marque sur l'arbre? Et même s'il sentait bien qu'il n'était pas en état à cet instant de tout réfléchir d'une façon claire et saine, cette idée-là lui parut la plus indubitable. Mais il était écrit qu'il ne parviendrait pas non plus aux îles. Il lui arriva autre chose. Débouchant de la perspective sur la place, il vit soudain, sur la gauche, une entrée dans une cour ceinte de murs aveugles. À droite, tout de suite après la porte cochère, le grand mur non blanchi d'un immeuble voisin haut de 3 étages s'étirait loin dans la cour. À gauche, parallèlement au mur aveugle, et là aussi, tout de suite après la porte cochère, s'étirait une palissade de bois, sur une 20aine de pas de profondeur à l'intérieur de la cour, après quoi elle faisait une cassure vers la gauche. C'était un lieu aveugle et fermé dans lequel gisaient toutes sortes de matériaux. Plus loin, dans la profondeur de la cour, on voyait poindre derrière la palissade l'angle d'une grange basse, couverte de suie, construite en pierre, sans doute une partie d'un quelconque atelier. Il y avait là sans doute une entreprise de sellerie ou de menuiserie ou quelque chose de ce genre-là. Partout, presque depuis la porte cochère, tout était noir d'une poussière de charbon. Là qu'il faudrait tout jeter et puis partir, se dit-il soudain. Ne remarquant personne dans la cour, il fit quelques pas sous la porte cochère et découvrit tout de suite, là, tout près de la porte, une gouttière apposée à la palissade, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'immeuble où vivent beaucoup d'ouvriers, d'artisans, de cochers, etc. Et, au-dessus de la gouttière, à même la palissade, le mot d'humour à la craie qu'on trouve toujours dans ces cas-là. On ne pisse pas. Donc, déjà quelque chose de bien, au cas soupçon de ce qu'on entre et on s'arrête. Et là, on jette tout d'un seul coup, n'importe où, dans un tas, et au revoir. Regardant une nouvelle fois autour de lui, il avait déjà enfoncé sa main dans sa poche quand soudain, juste devant le mur extérieur, entre la porte cochère et la gouttière, là où l'espace ne faisait pas un archine de large, il remarqua une grosse pierre brute, pesant approximativement peut-être 1,5 pouds, directement posée contre le mur de pierre de la rue. Derrière ce mur, il y avait la rue, le trottoir, on entendait marcher les passants, qui sont toujours assez nombreux dans ce quartier. Mais derrière la porte cochère, personne ne pouvait le voir. À part seulement si quelqu'un entrait, venant de la rue, ce qui du reste pouvait très bien se produire et donc il fallait faire vite. Il se pencha vers la pierre, en saisit fermement le sommet des deux mains, et de toutes ses forces il retourna la pierre. Sous la pierre s'était formé un petit renfoncement, il commença tout de suite à y jeter ce qu'il avait dans les poches. Le porte-monnaie se retrouva tout en haut, et malgré cela il y avait encore de la place dans le renfoncement. Ensuite il saisit à nouveau la pierre, la retourna une nouvelle fois d'un seul élan, et elle retomba juste à la place qu'elle avait occupée, tout juste, semblait-il, un peu plus haut à peine. Mais il ramassa de la terre et la tassa sur les coins du bout du pied. On ne pouvait rien remarquer. Alors il ressortit et il se dirigea vers la place. À nouveau, une joie puissante, presque insupportable comme tout à l'heure au commissariat, s'empara de lui pour un instant. Les pistes sont effacées et qui, non mais qui, pourrait bien avoir l'idée de venir chercher ici sous cette pierre? Elle reste là, si ça se trouve, depuis la construction de la maison et elle y restera encore aussi longtemps. Et combien même on la trouverait, qui donc penserait à moi, tout est fini, aucune pièce à conviction, et il éclata de rire. Oui, il se souvenait plus tard qu'il avait ri d'un petit rire nerveux, inaudible, très long, et qu'il riait toujours, tout le temps qu'il traversait la place. Mais quand il mit le pied sur le boulevard où 2 jours auparavant il avait croisé la petite fille, son rire lui passa d'un coup. Ce furent d'autres pensées qui se glissèrent dans son crâne. Il lui sembla d'un coup que cela le dégoûtait d'une façon terrible à présent de passer devant ce banc sur lequel autrefois, après le départ de la fillette, il était resté là à réfléchir, et que cela l'oppresserait terriblement de revoir le moustachu auquel il avait donné 20 copecs, qu'il aille au diable. Il avançait, regardant autour de lui d'un œil distrait et plein de haine. Toutes ses pensées tournoyaient autour d'il ne savait quel unique point fondamental, et il sentait lui-même que c'était réellement le point fondamental, et qu'à présent, oui, à présent, il restait seul en face à face avec ce point fondamental. Et cela même pour la première fois depuis tous ces 2 mois. « Mais que tout aille au diable !» se dit-il d'un coup, dans un accès de haine inextinguible. « Bon, ça a commencé, et bien que ça commence, au diable aussi, la nouvelle vie, ce que c'est bête, mon Dieu. Et tout ce que j'ai pu dire comme bêtises, toutes les bassesses que j'ai faites aujourd'hui, toutes ces flatteries répugnantes, toutes ces petites flatteries tout à l'heure avec cette espèce d'ignoble Ilia Petrovitch. Ah, n'empêche, tout ça, c'est n'importe quoi. Je m'en fiche d'eux à présent. Je m'en fiche d'avoir flatté, d'avoir courbé les chines. Pas de ça du tout, non, pas du tout. Soudain, il s'arrêta. Une question nouvelle, absolument inattendue et d'une absolue simplicité, l'égara complètement et l'emplit d'une stupeur amère. Si, réellement, tout ça a été fait en toute conscience et pas comme un crétin, si, réellement, tu avais un but ferme et défini, alors comment, donc, jusqu'à présent, n'as-tu pas regardé le contenu du porte-monnaie et ne sais-tu pas ce que tu as reçu? Pourquoi donc as-tu pris sur toi toutes ces tortures et as-tu marché en toute conscience vers une chose aussi infâme, vile et basse? Tu voulais le jeter à l'eau à l'instant, le porte-monnaie avec les autres objets, et eux non plus, tu ne les as pas regardés. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'était ça, tout ça, c'était bien ça. Du reste, il savait bien, lui, bien avant, que cette question, elle n'était pas du tout nouvelle pour lui. Et quand la nuit, la décision s'était prise de jeter à l'eau, elle s'était prise sans la moindre hésitation, sans la moindre réplique, comme ça. Comme si c'était ainsi que ça devait être, comme si ce n'était pas possible autrement. Oui, tout ça, il le savait, il se souvenait de tout. Et presque c'était déjà décidé hier, à la minute même où il s'était penché sur la malle et qu'il en avait sorti les étuis. Parce que c'était ça. C'est parce que je suis très malade, conclut-il enfin d'un air lugubre. Je me suis mise au supplice, je me suis déchirée moi-même et je ne sais pas moi-même ce que je fais. Hier et avant-hier et pendant tout ce temps, je me suis déchirée. Je vais guérir et je vais arrêter de me déchirer. Et si d'un coup je ne guérissais plus, mon Dieu, comme j'en ai assez de tout ça. Il marchait sans cesse. Il avait une envie terrible de se distraire d'une façon ou d'une autre, mais il ne savait pas quoi faire, quoi entreprendre. Une sensation nouvelle, indéfinissable, s'emparait de lui de plus en plus, presque à chaque minute. C'était une sorte de dégoût infini, presque physique, envers tout ce qu'il rencontrait, tout ce qui l'entourait. Un dégoût obstiné, rageur, empli de haine. Tous les passants lui semblaient répugnants, répugnants leur visage, leur démarche, leur mouvement. Il aurait tout simplement craché sur le premier venu, il aurait pu le mordre, semblait-il, si quelqu'un lui avait adressé la parole. Il était environ 8 heures, le soleil se couchait. L'air était toujours aussi lourd, mais il l'aspira avidement, puant, poussiéreux, empoisonné par la ville. Sa tête se mit un peu à tourner, une sorte d'énergie frénétique lui soudain dans ses yeux enfiévrés et son visage jaune pâle et maigre. Il ne savait pas où aller, n'y pensait pas, il ne savait qu'une seule chose. Tout ça, il fallait le finir le jour même. Une fois pour toutes, là, maintenant, jamais il ne rentrerait chez lui parce qu'il ne voulait plus vivre comme ça. Comment finir? Par quoi finir? Il n'en avait pas la moindre idée, il ne voulait même pas y penser. Il repoussait toute pensée, la pensée le torturait, il sentait seulement, il savait qu'il fallait que tout change d'une façon ou d'une autre, même n'importe comment, répétait-il avec une assurance et une résolution figée, désespérée. Selon sa vieille habitude, suivant le vieil itinéraire de ses anciennes promenades, il alla vers la place au foin. Juste avant la place au foin, sur le trottoir, devant une petite mercerie, il y avait un jeune joueur d'orgue de Barbarie aux cheveux noirs qui tournait une sorte de romance tout à fait sentimentale. Il accompagnait une jeune fille d'une quinzaine d'années qui se tenait devant lui sur le trottoir, habillée comme une demoiselle en crinoline avec une mantille, des gants et un petit chapeau de paille orné d'une plume couleur de feu. Le tout était vieux et usé. D'une voix des rues, tintante mais assez agréable et sonore, elle chantait une romance dans l'attente que la boutique lui envoie 2 copecks. Raskolnikov s'arrêta un instant près de 2 ou 3 auditeurs, il écouta, sortit une pièce de 5 et la mit dans la main de la jeune fille. Celle-ci, soudain, interrompit son chant sur la note la plus haute et la plus pathétique, comme si elle le coupait, cria brutalement au joueur d'orgue « C'est bon !» et les deux se traînèrent plus loin, vers la boutique suivante. « Vous aimez les chansons des rues ?» dit soudain Raskolnikov, s'adressant à un passant déjà d'un certain âge, qui était auprès de lui devant l'orgue de Barbarie et avait l'air d'un flâneur. L'autre lui jeta un regard frénétique et surpris. « Moi, oui !» poursuivit Raskolnikov, mais avec un air tel que c'était comme s'il ne parlait pas du tout des chansons des rues. « J'aime les chansons qu'on chante avec un orgue de Barbarie, les soirs d'automne, quand il fait froid, sombre et humide, oui, surtout humide, quand tous les passants ont un visage vert pâle et mal portant. Ou mieux encore, quand il tombe de la neige mouillée, quand ça tombe tout droit, sans vent, vous savez, et à travers les becs de gaz qui brillent. Je ne sais pas, pardon, marmonna le monsieur effrayé à la fois par la question et l'air étrange de Raskolnikov, et il passa sur le trottoir d'en face. Raskolnikov alla tout droit et déboucha sur cet angle de la place au foin où le bourgeois et sa femme qui parlaient l'autre jour avec Lisaveta avaient mis leur étal. Cette fois, il n'était pas là. Il reconnut le lieu, s'arrêta, regarda autour de lui et se tourna vers un jeune gars en chemise rouge qui bâillait devant l'entrée d'un hangar de farine. « C'est un bourgeois, hein, qui tient cet étal, là, au coin, avec une femme, sa femme, hein ?»« Y a de tout, » répondit le gars, toisant de haut Raskolnikov. « Comment il s'appelle ?»« Par son nom de baptême. »« Dis, toi aussi, tu ne serais pas de Zaraïsk ? Quelle province ?» Le gars regarda à nouveau Raskolnikov. « Chez nous, votre noblesse, c'était pas la province, c'était le district, et le plus strict, c'était mon frère. Moi, je filais doux, alors vous savez. »« Excusez-nous, votre noblesse, je vous en prie. »« C'est une gargote, en haut ?» Un café avec billard en plus, et des princesses, si qu'on est amateur, phew. Raskolnikov traversa la place. Là, à l'angle, il y avait une foule compacte, rien que des moujiks. Il se glissa au milieu en regardant les visages. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose le poussait à parler avec tout le monde. Pourtant, les moujiks ne faisaient pas attention à lui, ils n'arrêtaient pas de dégoiser entre eux en formant des petits groupes. Il attendit un peu, réfléchit, et tourna vers la droite, sur le trottoir, en direction de l'avenue. Il traversa la place et obliqua dans une ruelle. C'était « Crime et châtiment, errance à Saint-Pétersbourg », quatrième épisode du podcast « D'ouvrage en ouvrage », une lecture proposée par la Maison de l'architecture de Franche-Comté. À bientôt !